France Culture, les romans qui ont changé le monde. Mathias Sénard.
Les romans changent-ils le monde ? Pendant deux semaines, nous explorons 10 œuvres dont on peut assurer qu'elles ont changé quelque chose à la littérature et au 20e, voire au 21e siècle, en compagnie d'autrices, d'auteurs, de spécialistes de la littérature, d'Europe et d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage dans les romans qui ont changé le monde en 1992, année de la première publication en Allemagne du roman « Le renard était déjà le chasseur » de Herta Müller, paru ensuite en français dans une traduction de Claire de Oliveira en 1997 aux éditions du Seuil. Le renard était déjà le chasseur, c'est le roman de la dictature roumaine, de la porosité entre la société civile et la police secrète, entre le bien et le mal. Herta Müller, depuis sa position si particulière de germanophone de Roumanie, membre de la communauté que l'on a coutume d'appeler les Swabes du Banat, autour de Timișoara, écrit le roman des années 80 roumaines, d'une écriture somptueuse de poésie douce, de symboles et de métaphores. Le renard était déjà le chasseur. C'est bel et bien l'histoire d'un renard qui devient un signe du totalitarisme et des agissements de la police secrète. Une chronique d'une vie sous la dictature jusqu'à la chute de Ceausescu. Pour évoquer ce roman extraordinaire, nous avons la chance d'avoir avec nous sa traductrice de l'allemand en français, Claire de Oliveira, et un historien spécialiste de la Roumanie au XXe siècle, Traian Sandu. Bonjour Claire de Oliveira.
Bonjour.
Claire de Oliveira, vous êtes universitaire et traductrice, spécialiste au départ de la poésie en allemand de Roumanie. Vous avez ensuite traduit tout ce qui compte, ou presque, dans la littérature germanique. Herta Müller, bien sûr, mais aussi Elfriede Jelinek, Elias Canetti, Josef Roth, Stefan Zweig ou Franz Kafka. Vous avez retraduit récemment La montagne magique de Thomas Mann, majestueuse traduction qui vous a valu de nombreux prix et éloges mérités. Vous êtes aussi traductrice du roumain et membre de l'Académie allemande de langue et littérature. Et vous, Traian Sandu, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des Balkans, principalement de la Roumanie. Vous enseignez à l'Université de Paris 3. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur l'histoire de la Roumanie au XXe siècle et le fascisme roumain, notamment la monumentale Histoire de la Roumanie aux éditions Perrin. Et dans quelques jours, paraît toujours aux éditions Perrin votre essai biographique intitulé « Ceausescu, le dictateur ambigu ». Traian Sandu, vous serez notre guide quant à l'histoire et à la géographie aujourd'hui, car j'ai l'impression que pour situer l'œuvre de Herta Müller, et surtout Le renard était déjà le chasseur, il faut commencer par présenter ce qu'on appelle les Swabes du Banat, ou les Allemands du Banat. Traian Sandu, qui sont-ils? Quelle est cette communauté de laquelle est issue Herta Müller?
Écoutez, je crois que les Swabes du Banat, contrairement aux Saxons de Transylvanie, sont des Allemands qui ont été largement colonisés par Marie-Thérèse à la suite de la reconquista, comme on dit, sur les Ottomans, à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle. Et ce sont des populations qui doivent marquer la présence des Habsbourg dans l'espace anciennement ottoman, et donc d'une colonisation relativement récente, alors que les Saxons sont, eux, là, depuis le XIIe siècle, plutôt XIIIe siècle, colonisés par les rois de Hongrie dans le cœur de la Roumanie, et membres aussi, eux, des ordres de moines chevaliers, hein, des Templiers, et surtout l'ordre de Saint-Jean. Voilà. Mais les Swabes sont, il me semble bien, de présence beaucoup plus récente, et font partie de cette population mélangée, colonisée par les Habsbourg, soit pour mettre en valeur les terres, les villes, plutôt pour les Allemands, ou pour former la frontière défensive vis-à-vis des Turcs. Et là, ce sont plutôt des colons serbes, de paysans soldats serbes. Mais tout ça, c'est assez mélangé. Vous savez, c'est l'empire des Habsbourg. Mais dans cette région du Banat, oui, il y a à la fois des Serbes, des Allemands, des Hongrois aussi, et évidemment des Roumains.
Et encore aujourd'hui, alors, est-ce qu'il y a encore des germanophones dans la Roumanie d'aujourd'hui?
Oui, il y a eu un grand mouvement de départ. Alors, c'est un départ qui s'est fait en plusieurs phases. Vous avez les premières persécutions après 1945. Bon, certains pour collaboration avec la Wehrmacht. D'autres ont été déportés à l'intérieur de la Roumanie, dans la grande plaine du Bărăgan, au nord de Bucarest, immédiatement après 1945. Je crois que c'est 1946. Et donc, ils ont été ainsi persécutés. Et à partir de pratiquement de l'arrivée au pouvoir de Ceausescu. Je pense que ça a commencé avec lui et pas avec son prédécesseur Gheorghe Udej. Ceausescu a commencé à les vendre, tout simplement, a commencé à vendre les germanophones, comme il a vendu également les juifs il les vendait à Israël, et les Allemands, il les vendait à la République fédérale d'Allemagne, contre monnaie sonnante et trébuchante, plutôt des dollars, je crois, que des marques, si mes souvenirs sont bons.
Et 8000 marques.
Des marques, c'était des marques.
C'est le prix d'un homme, oui.
8000 marques. Alors, il y avait une échelle, en fait. Alors, il y avait évidemment les adultes qui avaient été formés, donc eux, ils valaient plus cher, les enfants un peu moins cher, parce qu'ils n'avaient pas bénéficié de la formation. Il y avait les retraités, etc. Donc, il y avait toute une échelle des valeurs, effectivement, donc en marques. Merci.
Et Claire D'Olivera, donc Hertha Müller, naît dans cette communauté et va elle-même rejoindre l'Allemagne en 1987, si je ne me trompe pas.
Exactement. Et ce qu'il y a d'intéressant pour elle, c'est qu'elle va passer sur le plan linguistique, la langue c'est essentiel pour un écrivain bien sûr, et quand il est minoritaire, elle va passer d'une situation qui est celle de la triglossie, pour reprendre les catégories d'Henri Gobard, donc avec la langue roumaine qui est véhiculaire, c'est la langue nationale, avec son dialecte souabe du Banat qu'elle a tout de même parlé chez elle à la maison, qui est une sorte de langue maternelle, qui est une langue donc vernaculaire. Et puis, l'allemand standard, le Hochdeutsch, qui est la langue référencière. Elle va passer de cette situation multilinguistique qu'elle aimait beaucoup, parce que c'est une personne qui a été traductrice, et donc elle aime bien tout ce qui est passage et étrangeté au sein même de son propre pays. Lors de son émigration, bon, qui a eu lieu grâce à des pressions de l'Union des écrivains allemands et du Pen Club, lors de son émigration, elle s'est trouvée en quelque sorte amputée, comme la fourrure du renard, de certaines de ses pattes. Et ça donne la situation d'une voyageuse sur une seule jambe. C'est le titre d'un de ses livres.
Mais est-ce qu'elle a été vendue, alors, elle aussi, comme les Allemands du Banat?
Ah non, elle aurait été trop chère.
Nous allons en venir au roman « Le renard était déjà le chasseur ». Et pour ce faire, nous allons écouter un premier extrait du texte, traduit donc par Claire D'Olivera, ici présente. « Le renard était déjà le chasseur » de Hertha Müller, lu par la comédienne Élodie Huber.
Au café, un petit tzigane est debout près de la dernière table. Il soulève un verre de bière vide au-dessus de son visage. Le fil de mousse coule lentement. Sa bouche avale avant que le fil de mousse ne soit sur ses lèvres. « Arrête de boire, » dit Adina. « Tu n'as pas de bouche, tu bois avec le front. » Elle le dit fort. Le garçon est à sa table. « Donne-moi un le, » dit-il en tendant la main par-dessus le journal. Adina pose la pièce à côté du verre. Il la fait disparaître de la table sous sa main. « Que Dieu t'aide à rester belle et bonne, » dit-il. Il parle de Dieu, et dans le soleil, Adina ne voit pas son visage, mais rien que deux yeux d'un blanc jaune. « Bois de la limonade, » dit-elle. Une mouche vole dans le verre. Il la pêche avec sa cuillère, la fait tomber par terre en soufflant et met la cuillère dans sa poche. « Chochoy !» crie la serveuse. Il a la gorge sèche, un gloussement dans la chemise. Il lève le verre, le boit d'un trait avec tout le visage, jusqu'à ses yeux d'un blanc jaune. Il met le verre dans sa poche. « Chochoy !» crie la serveuse. « Chochoy veut dire lapin dans la langue des tziganes, » a dit Clara. « Les tziganes ont peur des lapins. »« C'est de la superstition que les tziganes ont peur, » a dit Paul. C'est pire parce qu'ils ont toujours peur.
Nous venons d'entendre un extrait du « Renard était déjà le chasseur » de Hertha Müller, traduit par Claire D'Olivera. C'est un extrait du début du texte, presque une scène de genre, où l'on rencontre les tziganes. Comme si, puisqu'il y a un renard, il fallait aussi un lapin. On a l'impression, en lisant le roman, qu'il fonctionne comme ça, Claire D'Olivera, toujours à plusieurs niveaux, avec une apparente simplicité, une inimitable facilité. Un niveau immédiat, et puis peut-être un second niveau, plus métaphorique ou presque parabolique.
Oui, effectivement, la parabole du livre, c'est peut-être le changement de mode de l'être. Je pense à l'ouvrage d'Emmanuel Lévinas, « Autrement qu'être » ou « Au-delà de l'essence ». Parce que c'est un petit peu ça. Elle nous montre effectivement avec une simplicité, une limpidité extraordinaire et beaucoup de drôlerie, le quotidien qu'elle a vécu, qu'elle connaît parfaitement. Et par derrière, il y a une autre histoire en filigrane. C'est ce que je trouve passionnant dans sa littérature, c'est qu'on identifie une modalité de présence ambiguë qui déchire la fabrique de l'être, s'il y en a une. Donc le tzigane et son lapin, le renard est aussi très intéressant comme animal, parce que vous voyez, un renard, on ne tire pas dessus, il tombe dans le piège. Et lui-même est un prédateur. Et ça, c'est un autre aspect que je trouve passionnant dans le roman, c'est-à-dire cette porosité des rôles du bourreau et de la victime. Un petit peu comme dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Le bourreau et la victime, je pense au Starets Zosim chez Dostoïevski, le bourreau et la victime finissent par se ressembler. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est les zones de flou. Il n'y a pas d'essentialisme. Il n'y a pas de peinture en noir et blanc chez Hertham. Il y a toujours des nuances, il y a toujours de la grisaille.
Très incendieux, on vient d'entendre ce portrait de cette deuxième minorité, les Tziganes, qui représentent un peu un aspect presque merveilleux, qui font un peu aussi partie de ce folklore qui intéresse tant Hertha Müller.
Ils font partie du folklore français et des gens qui nous écoutent depuis qu'ils ont pu émigrer après 1989 et qui sont devenus un tout petit peu le marqueur aussi de la minorité roumaine. Bon, qui ne se reconnaît pas tout à fait en eux et dont ils veulent à tout prix se distinguer. Mais effectivement, en Roumanie même, ils représentent aussi une minorité en partie marginalisée que les différents pouvoirs nationaux, les communistes nationaux, si ont essayé de sédentariser avec un certain succès pour certains d'entre eux. On peut toujours les inscrire effectivement dans ces grandes catégories sociologiques du sédentaire et du nomade. Et donc ils représentent un tout petit peu cette part de nomadisme qu'en réalité les Roumains avaient connu aussi en tant que pâtres. C'est aussi une civilisation balkanique finalement assez nomade, en partie du moins. Et donc ils représentent un tout petit peu cette partie de nomadisme qui a subsisté et peut-être aussi une partie un petit peu de mauvaise conscience plus ou moins masquée puisqu'ils avaient un statut d'absence de liberté, en fait statut d'esclave pratiquement jusqu'à la révolution de 1848 lorsqu'ils ont été émancipés. Et donc oui, en effet, une certaine mauvaise conscience, et comme d'habitude, les minorités qui éveillent la mauvaise conscience de la majorité, et encore une catégorie très importante en Roumanie, eh bien, on a tendance plutôt à les stigmatiser, voire à les persécuter à l'occasion. Voilà. D'une certaine façon, Hertha Müller, ou en tout cas le narrateur, s'il appartient lui-même à la minorité allemande, peut mettre dans une espèce de perspective un peu en abîme toutes ces catégories de majorité roumaine, minorité allemande, et comme vous l'avez rappelé, minorité tzigane, d'une certaine façon, encore plus stigmatisés, éventuellement persécutés. Et donc, ce n'est pas tout à fait, effectivement, innocent, ça n'est jamais dans une œuvre littéraire, d'avoir cette espèce de mise en abîme des minorités. Voilà.
Mais j'ai l'impression qu'ils sont aussi là, cette anecdote du Tzigane, et là aussi pour donner justement un aspect presque merveilleux au texte. C'est drôle et en même temps c'est profond de dire qu'on a peur d'un lapin ou qu'on ne mange pas de lapin parce qu'ils sont justement la liberté.
Mais comme l'a très bien dit Claire de Oliveira, c'est là encore une mise en abîme des prédateurs et des victimes. Vous avez donc l'homme, le renard, et au-dessus de l'homme peut-être le sécuriste, l'homme, le renard et le lapin. Mais vous avez dans la société plus globalement, vous avez la majorité nationale roumaine qui est valorisée par le discours national communiste de Ceaușescu. Puis ensuite, vous avez des minorités et des minorités qui sont elles aussi hiérarchisées. J'ai vu dans les documents des réunions du comité central ou d'autres comités plus restreints dans lesquels intervenait Ceaușescu, qu'à partir d'un certain moment, dans les années 70, il y avait dans son esprit, et il l'exprimait comme ça dans des comités relativement restreints, il y avait une hiérarchisation des minorités. Bon, vous aviez évidemment la belle nation roumaine qui était forcément intégrée au régime et tout à fait enthousiasmée par le régime, mais vous aviez ensuite, assez classiquement, la minorité allemande qui était assez valorisée pour ses compétences techniques qu'on lui attribuait. La minorité juive qui était éventuellement plus remuante, et ensuite effectivement les Tziganes au bas de l'échelle. Et les Allemands, bon, ils n'en étaient pas très contents de s'en débarrasser, ils voulaient un petit peu les garder, mais bon, s'ils pouvaient les vendre à l'Allemagne, ils le faisaient volontiers. Les Juifs, ils étaient plus remuants, et il y avait aussi dimension juive de la dissidence soviétique qui peut-être risquait de se retrouver dans la dissidence roumaine, ce qui était le cas, et donc eux, ils voulaient bien s'en débarrasser davantage, d'autant qu'il avait aussi une politique plutôt pro-palestinienne, avec l'intermittence, et puis tout en bas, la minorité tzigane qui, à l'époque, ne pouvait pas sortir et qui n'intéressait pas beaucoup les autres puissances, comme pouvait être Israël ou l'Allemagne de l'Ouest, et donc qui était tout en bas de l'échelle.
Écoutons Herta Müller elle-même présenter « Le renard était déjà le chasseur » en 2021.
Le titre du roman, Ce renard et ce chasseur, ont quelque chose à voir avec ma propre biographie. J'avais alors une peau de renard. Cette peau de renard était dans mon appartement. Je l'avais achetée lorsque j'étais adolescente. Ma mère voulait me l'offrir pour Noël, pour en faire le col d'un manteau. Un tailleur devait recouper le renard. Mais lorsque j'ai eu la peau de renard, je ne voulais plus la couper, car il était trop beau. Je ne voulais avoir ni un renard coupé, ni un renard entier autour du cou comme les femmes âgées. Donc le renard a déménagé avec moi dans chacun des appartements que j'ai occupés, quand j'étais au lycée ou que je partageais un appartement d'étudiant, jusqu'à ce que j'aie de grandes difficultés avec la police secrète. Je travaillais à ce moment-là dans une usine et le renard devenait une forme de danger. Il était sur le sol, dans mon appartement, et toutes les deux semaines, on le mutilait. D'abord, sa tête a été coupée, ensuite les pattes, la queue. Je me suis toujours demandé s'il fallait que j'éloigne le renard. Mais finalement, je le laissais toujours par terre et je laissais les parties coupées à ses côtés. Je voyais comme ça que je vivais au milieu du danger. Il me prévenait lorsque la police secrète était entrée chez moi en mon absence. La porte, elle, ne disait rien. C'est aussi le thème du roman, de quelle façon un groupe d'amis est persécuté par la dictature jusqu'à la chute du régime de Ceausescu.
Nous venons d'entendre Herta Müller elle-même présenter « Le renard était déjà le chasseur » au Goethe-Institut de Rome en 2021. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Claire d'Olivera, « Le renard était déjà le chasseur » est un roman autobiographique en réalité. Adina, le personnage principal du livre, c'est Herta en fait.
Exactement. Et comme l'autrice, elle est animée d'un sentiment de désappropriation. C'est dans une société liberticide où l'individu comprend qu'il est un pion et rien d'autre. Et petit à petit, Adina a le sentiment qu'elle a été dénoncée par quelqu'un parce que la fourrure de renard qu'elle a chez elle, comme Herta, dont elle est effectivement le double, cette fourrure est découpée au fur et à mesure avec une grande discrétion par les services secrets qui replacent les pattes comme si elles n'avaient pas été découpées, mais laissent tout de même des signes de leur présence. C'est très caractéristique de la Securitate roumaine, pour inquiéter, pour intimider. Et donc, Adina comprend peu à peu que son amie Clara, qui a une liaison avec un officier de la Securitate, doit y être pour quelque chose. Elle comprend qu'elle a été trahie.
Trahie, sans doute. À partir de quel moment commence cette, présence de la Securitate et dans la vie quotidienne des Roumains au fur et à mesure de l'installation de la dictature ?
Écoutez, la Securitate est présente depuis bien plus longtemps. Elle est présente, en fait, depuis l'installation du régime en décembre 47, janvier 48. En fait, des services de sécurité existaient déjà dans l'ancien régime monarchique de l'entre-deux-guerres. Il y avait ce qu'on appelait la Sigurança, et la Securitate, d'une certaine façon, est en partie, pas de la même façon, mais est un petit peu une descendante de la Sigurança de l'entre-deux-guerres, qui, elle aussi, avait un rôle de police politique et qui poursuivait à la fois les communistes liés à l'Union soviétique et au danger soviétique tout proche, à l'Est, mais poursuivait aussi un mouvement que je connais bien, puisque je lui ai consacré un livre et ma thèse d'habilitation, le mouvement de la garde de fer des fascistes roumains. Et donc, la présence de la police politique est quand même une tradition en Roumanie. Alors, elle prend des proportions très importantes dans les années 50, puisque, si vous voulez, la Securitate a eu un avatar militarisé dans les années 50, parce qu'il y a une résistance anticommuniste qui dure très longtemps, entre 1948 et, en fait, pratiquement jusqu'en 1956, dernier reste de cette résistance jusqu'au début des années 60, à la fin de la collectivisation, donc lorsque le régime se rend maître de tout le territoire et qu'il met la main aussi sur les toutes les propriétés, lorsqu'il achève la collectivisation en 1962-63, eh bien cette résistance des montagnes finit par être écrasée essentiellement après 1956 et la fin des espoirs de la révolution hongroise. Voilà, donc la Securitat a un avatar militarisé très important. Ensuite, à partir de 1960, on va dire, moment de la déstalinisation, et surtout à la fin des années 50, au début des années 60, Gheorghe Udej, qui est le prédécesseur de Ceausescu, le secrétaire général du Parti communiste, qui meurt donc en mars 65, lorsque Ceausescu arrive au pouvoir, eh bien, Gheorghe Udej entreprend en fait une désescalade de la terreur. Il sort beaucoup de gens des prisons, notamment ces fameux fascistes, les légionnaires, ou les gardistes, les membres de la garde de fer. Il est sort de prison en 62-63 parce que en fait il veut renouer avec une légitimation nationale, nationaliste même, avec la société roumaine. Et donc la Securitate devient beaucoup moins terroriste, beaucoup moins présente, beaucoup moins terrifiante en fait. Et lorsque Ceausescu arrive au pouvoir donc en mars 65, bon, il est jeune, il a envie de se légitimer, il a envie d'être populaire, et il y réussit en fait, si vous voulez, hein, parce qu'il y a une bonne période de Ceausescu qui sont ses premières années, entre donc mars 65 et pratiquement bon, il y a une date canonique qui est celle de 1971, mais en réalité dès 1969-70 le régime commence à se durcir sur le plan idéologique, sur le plan des mœurs également. Mais il y a cette deuxième moitié des années 60 où il est populaire et donc où la Securitat n'est pas très présente. Je vais vous donner une petite anecdote liée justement à ces mouvements de jeunesse un peu contestataires, un peu qui sont un peu dans la culture rock du début des années 60, c'est qu'il commençait à porter les cheveux longs, un tout petit peu comme à l'Ouest, vous voyez, la barbe, les cheveux longs. Et la Securitat, en 63, a une espèce de réaction anti-jeune et attrape comme ça les jeunes dans Bucarest et leur rase la barbe et leur coupe les cheveux, donc de façon assez humiliante, hein, mais dans un mouvement, si vous voulez, à la fois d'ordre moral, mais aussi peut-être qui rappelle un tout petit peu Pierre le Grand, enfin ce qu'il faisait subir à ses boyards, enfin bon, en tout cas de mouvement d'ordre moral. Et Ceausescu critique ça dans les comités restreints, critique, il dit que bon, les jeunes, ils doivent s'amuser aussi, etc. Donc il y a un moment, si vous voulez, de relâchement de la terreur, et ensuite tout ça revient tout doucement vers 1970-71. Vous avez un film très intéressant qui vient de sortir qui s'appelle Radio Métronome et qui relate justement autour de l'année 72, hein, moment de durcissement du régime, justement comme ça le démantèlement d'un groupe de jeunes qui écoutent du rock à Radio Free Europe, et il y a un traître également, vous voyez la thématique du traître comme ça, et donc qui trahit tout le groupe. Donc effectivement au début des années 70 la Securitat redevient présente, mais si vous voulez c'est toujours pareil, hein, tous ces régimes. On peut revenir sur la dénomination de dictature, ce n'est pas tout à fait le cas. Ces régimes totalitaires ont plusieurs leviers, plusieurs cordes à leur arc, qu'ils peuvent faire résonner. Ce n'est plus un arc, c'est une lyre. Mais ils ont plusieurs leviers aussi sur lesquels ils peuvent jouer. Ils ont la prospérité. Il y a un début de société de consommation à la fin des années 60. Il y a le nationalisme, très important. Il y a un peu de liberté, et il y a quatrième levier, la terreur. Et la terreur est toujours, lorsque les régimes sont stabilisés, même des régimes totalitaires, nazis, fascistes, lorsque la société est stabilisée, lorsqu'elle connaît un certain degré de consommation, etc., la terreur elle-même prend moins de place. Mais, comme ce sont des régimes totalitaires, donc dynamiques, qui mobilisent la société, qui essaient de l'enthousiasmer dans un certain but, eh bien, ils ne sont jamais totalement stables. Ils vont toujours soit vers la guerre pour le fascisme et le nazisme, soit vers la révolution mondiale, soit vers un dépassement, un idéal national-communiste, comme c'est le cas de chez Ceausescu. Donc, en fait, ils ne sont jamais véritablement stabilisés.
Alors justement, Claire de Oliveira, le renard était déjà le chasseur, c'est justement le moment où la Securitat est un peu à son apogée de pouvoir, et on voit bien que la vie des personnages du roman tourne autour de cela, c'est-à-dire que tout est conditionné par le rapport qu'on peut avoir soit à la société secrète parce que on est sollicité pour devenir un informateur, ou alors lutter contre elle. Et les années 80, qui sont à peu près celles du roman, plus ou moins, jusqu'à la Révolution roumaine, sont celles de cette possibilité de trouver un équilibre vital, presque impossible, avec la dictature.
C'est ce qu'il y a de fascinant dans le roman, c'est cette escalade de la violence faite à l'individu, donc de l'homme à l'homme et puis de l'homme à la femme. Il y a un aspect intéressant du roman qui est la sexualité, hein, comme prise de pouvoir des deux côtés d'ailleurs, parce que les femmes aussi ont un pouvoir violent sur les hommes, un pouvoir de sorcière un petit peu, hein, je pense au chapitre... sur le sang des melons, où les femmes mettent du sang menstruel dans des soupes ou du café qu'elles proposent aux hommes afin de s'assurer leur amour. Ce sont des choses extrêmement archaïques et extrêmement violentes. Mais ce que je trouve important dans ce roman, c'est la présence en filigrane d'un phénomène culturel dont l'autrice, Herta Müller, était vraiment un personnage important, et c'est le groupe d'action du Banat. C'était un groupe de dissidents, et elle en parle en fait assez rarement dans ses interventions. Elle faisait partie, comme sa protagoniste Adina, d'un groupe d'auteurs. Bon, là, dans le roman, ce sont des auteurs-compositeurs, et ils ont une chanson dissidente, Visage sans visage, qui inquiète tout de suite la censure, parce qu'ils disent ça va être le portrait de Ceausescu, qui est un visage effectivement sans en être un, qui est un portrait fabriqué, bricolé, une sorte de simulacre, et pourtant, c'est bien le dictateur. Et c'est donc ce groupe au sein duquel Herta Müller, avec son mari de l'époque, Richard Wagner, avec William Totok, avec Rolf Bossert, ont écrit des poèmes qui étaient codés. Et je trouve que la poésie des Allemands de Roumanie est un phénomène culturel encore méconnu, extrêmement important. Il est tributaire des poèmes de l'exil de Brecht. Brecht, lui aussi, écrivait des poèmes codés contre le régime national-socialiste après avoir fui l'Allemagne. Et Herta Müller, elle, en pleine dictature, a, avec ses amis, fait des écrits qui ont été interdits. Donc être interdit de publication, c'est une chose extrêmement dure, et c'est ce qui est exprimé, une fois de plus, de façon, enfin, un petit peu sous le couvert d'une image, hein, qui est celle de la chanson interdite dans le roman.
Alors, vous venez de parler de chansons, écoutons un peu de musique, justement, une chanson roumaine.
Să ne iubim
Nous venons d'entendre la chanteuse roumaine Maria Tanase dans cette chanson « Pe vale, tiatio, pe vale ». Et je crois que c'est une chanteuse que Herta Müller aime beaucoup.
Oui, en effet, elle est très sensible au folklore roumain et en particulier à cette chanteuse qui est un petit peu comme Edith Piaf en France, a composé des chansons d'amour d'une grande authenticité. Et c'est ce qui touche Herta Müller, dont l'écriture d'ailleurs est tributaire de la langue roumaine. Parce que les jurons qui sont cités dans le roman, qu'il faut traduire littéralement, elle les a traduits littéralement elle aussi en allemand depuis le roumain, comme « Ta mère sur la glace »,« Deine Mutter auf dem Eis ». Et c'est « Du te moi chata pe gheață » en roumain. Ce qui est difficile à traduire, ça veut dire « Va te faire voir » et « Ta vieille mère sur la glace », la vieille mère étant souvent d'ailleurs une personne de sage-femme, « moi-che ». Et ça veut dire... c'est à la fois, ça peut être une expression d'admiration, mais c'est une malédiction. Et vous allez me dire, pour le lecteur, ce n'est pas sensible. Mais c'est dans ce qu'il y a derrière les phrases. Et je trouve que la langue roumaine est très souvent là, chez Herta Müller, qui est amoureuse de la beauté de la langue roumaine. Elle m'en a très souvent parlé. Elle est amoureuse des images qui sont très souvent traduites, une fois de plus, par elle, de manière simple, sans tentative d'équivalence, parce qu'il faut laisser ces choses-là telles quelles et en profiter et voir la sagesse qu'il y a dans ces mots roumains.
Justement, Claire de Oliveira, quel souvenir gardez-vous de cette traduction? Parce que c'était quand même il y a quelques années. C'était le premier livre d'Herta Müller que vous traduisiez ou pas?
Oui, c'était un des premiers livres que j'ai traduit d'elle. Je l'ai recommandé pendant longtemps aux éditions du Seuil et on m'a donné ces livres à traduire au bout d'un moment. Mais j'étais contente d'avoir fait des études d'allemand et de roumain pour pouvoir... voir ce qu'il y avait derrière les mots, parce que moi j'estime que pour traduire quelque chose, il faut en fait décrire des cercles concentriques autour de son objet qui sont de plus en plus larges. Et ça inclut aussi des surréalistes de l'avant-garde roumaine, que Herta Müller connaît très bien. Ça inclut aussi un poète qui a vécu entre toutes ces nationalités, comme Paul Celan, qu'elle adore. Parce qu'il y a ensuite chez Herta Müller, dans ce roman même, des mots composés. Et c'est là que je vais vous parler du « lost in translation », parce que dans la traduction, j'essaye de faire passer sa simplicité. Je m'efforce de trouver la juste acception, mais quelquefois, je dois reconnaître mes déficits, mon impuissance à rendre un mot composé tout simple, technique, comme « Kugellager ». Et oui, c'est un roulement à billes, « Kugellager ». Mais dans la langue de Herta Müller, comme chez Paul Celan d'ailleurs, il faut entendre « Kugel », c'est une balle, et « Lager », c'est le camp. Et vous voyez là, on ne peut pas faire grand-chose en tant que traducteur, sinon constater qu'une fois de plus, on n'est pas à la hauteur de la situation.
Et alors, dans Le renard était déjà le chasseur, cet ensemble de personnages nous montre justement, nous trace un portrait de cet agent de la sécurité qui est assez extraordinaire parce que c'est à la fois quelqu'un du peuple, donc qui est identique en gros à celui qui doit surveiller, qui se sent surveillé lui-même, qui a des liaisons avec les gens qu'il est censé surveiller. Enfin bref, on voit à quel point la société roumaine est traversée par cette question du renseignement, du savoir, un peu comme pouvait l'être peut-être l'Allemagne de l'Est à l'époque.
Oui, là encore, bon, il y a toute l'ambiguïté de la légitimité du régime et de ces fameux quatre leviers, c'est-à-dire que il y a un tout petit peu un système de vase communicant. Lorsque le régime est légitime, lorsque les gens se sentent bien, effectivement, le sécuriste est en retrait, lui-même il est parfois visé. En fait, il faut savoir que Ceausescu, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a écarté ce qu'on appelle les barons de Dej, c'est-à-dire les dignitaires du régime de l'ancien secrétaire général du Parti communiste. Il les a écartés, et il a écarté notamment celui qui aurait pu être son rival, c'est-à-dire Alexandru Dragici, qui était ministre de l'Intérieur et qui était à la tête de la Securitat. Et donc, la relation entre Ceausescu et la Securitat est ambiguë parce que il a écarté Dragici. Alors, 66, 67, si mes souvenirs sont bons. Il a réhabilité un certain nombre de victimes des épurations staliniennes tardives de 54, Petrashkanu, qui étaient des victimes de Dragici. Et donc, il a essayé, à ce moment-là, d'écarter ces gens-là, tout en ne visant pas trop la Securitate, mais tout en la reprenant en main. Donc c'était un exercice assez délicat, et donc la Securitate était elle-même un instrument qu'il pouvait de temps en temps réactiver, mais qui n'était pas son instrument principal. Lui, ce qu'il voulait, c'était comme tous les chefs charismatiques, comme Hitler, Mussolini, ce qu'il voulait, c'était être aimé.
Oui, mais dans le roman « Le renard était déjà le chasseur », ce qu'on voit, c'est justement c'est que ces dissidents sont quand même aux prises avec un appareil d'État qui ne cherche qu'à les contrôler le jour, la nuit, qui rentrent chez eux, qui s'introduit dans leur intimité. Oui. C'est quand même ça le portrait qu'on a.
Vous avez raison. C'est-à-dire que lorsque vous apparteniez à une minorité active, comme c'était le cas des Hertha Müller, comme c'est le cas aussi, là je sors un peu de mon rôle d'historien, comme c'était le cas de mes parents également, puisqu'ils faisaient partie du groupe de Paul Gomme, celui qu'on a présenté comme le Solzhenitsyn roumain dans les années 70. Et donc là, évidemment, quand vous apparteniez à une minorité qui s'était révoltée et qui avait remis en cause la légitimité de ce pouvoir qui avait été populaire à un certain moment, dans les années 60, là vous deveniez non seulement des dissidents, vous voyez, on les présente, et moi je m'en réjouis pour des raisons presque personnelles, on les présente de façon tout à fait positive, mais vis-à-vis de l'ensemble de la société qui avait cru et qui avait été enthousiasmé même par Ceausescu, puisqu'il faut quand même rappeler l'épisode où Ceausescu a été extrêmement populaire lorsqu'il a critiqué l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, à laquelle les troupes roumaines n'avaient pas participé, parce que, outre cette tentative de devenir populaire, fournir un peu de consommation, d'objets de consommation à la société roumaine, il avait aussi une politique entre les deux blocs, un peu comme Tito, vous voyez, et donc il avait été populaire, il avait reçu De Gaulle à Bucarest, il avait reçu Nixon, et il était assez proche des États-Unis, il essayait de jouer un tout petit peu ce rôle de pont entre l'Est et l'Ouest, et donc la terreur, si vous voulez, n'était pas son arme absolue de gouvernement et de légitimation. Par contre, les minorités dissidentes, que ce soit des minorités ethniques ou des minorités politiques, eh bien, c'était des groupes assez restreints qui n'étaient pas très populaires, mais qui étaient défendus souvent par Radio Free Europe, parce que les Américains, évidemment, essayaient de susciter une opposition à l'intérieur de la Roumanie. Mais comme Ceausescu était un petit peu entre l'Est et l'Ouest, et il était aussi l'ami des Américains, une fois qu'ils avaient réussi à partir, ils ne les reconnaissaient pas, ils ne les soutenaient plus, les Américains, parce qu'ils voulaient rester amis avec Ceausescu. Donc c'est très ambigu, si vous voulez, le rôle de la Securitat. Elle terrorisait. Ce n'était pas tout à fait une terreur massive parce que tout simplement il n'y avait pas de résistance massive. Il pouvait intervenir effectivement s'il y avait des soulèvements comme dans les années 80, des soulèvements de la faim. Là, elle a terrorisé les gens, elle a torturé, elle a retrouvé des méthodes des années 50. Donc là, vous pensez surtout au Ceausescu des années 80. C'est aussi le Ceausescu un tout petit peu de Hertha Müller. Et donc où effectivement la terreur avait retrouvé, n'est-ce pas, des couleurs, tout simplement parce que la consommation et la liberté était en recul. Et si la consommation était en recul, c'est parce que Ceausescu voulait redevenir indépendant par rapport aux Américains et par rapport aux institutions monétaires occidentales, le FMI et la Banque mondiale auprès desquelles il s'était endetté, un petit peu comme les pays en voie de développement. Ça, c'est les années 80, hein, donc retour de la misère, de la pauvreté, la faim et le froid. Et les années 70, c'était déjà un léger recul de la liberté. Donc, si vous voulez, la Securitat retrouvait du pouvoir et de l'emprise sur la société progressivement pour des questions politiques modestes dans les années 70. Il y a eu une rupture en 77 au moment du tremblement de terre, de l'opposition de Paul Gomme et du soulèvement des mineurs. Donc l'année 77 a été une rupture et ensuite l'année 81 à partir de laquelle il a voulu rembourser la dette auprès des institutions monétaires occidentales et la Securitat est redevenue très prégnante à ce moment-là.
Et justement, elle l'est dont le renard était déjà le chasseur, Claire d'Olivera, parce que le principe du roman, c'est justement comment est-ce que Adina va être amenée, alors qu'elle travaille dans cette usine, dans cette fabrique, on va lui proposer justement de collaborer à son tour à la surveillance de ce qu'il y a autour d'elle. Et ça, c'est un des passages clés du récit.
Oui, c'est effectivement emprunté au vécu de Hertha Müller qui, elle-même, a été sommée de collaborer et à l'époque, elle a dit « nam caracterul », c'est-à-dire « ça, c'est pas dans ma personnalité, je ne peux pas faire une chose pareille ». Et à la suite de cela, elle a été inquiétée très gravement, d'où cette écriture de la transgression qu'elle a. Moi, c'est ce qui m'intéresse chez elle, c'est sa manière d'en parler indirectement, mais avec une force exceptionnelle, une force qui est celle de la simplicité, et très souvent des inversions de la causalité. Par exemple, un officier a tellement bu qu'elle écrit cela ainsi, je trouve ça très beau. Le soir, il ne trouve plus son chemin. C'est son chemin qui le trouve. Et donc, cette inversion de la causalité est un procédé moderne, comme celui du collage et du montage que Herta Müller pratique encore aujourd'hui, et avec de plus en plus de passion pour faire des poèmes, d'ailleurs, un petit peu comme des lettres anonymes, en découpant dans des journaux des mots, des lettres, etc. Et à l'époque, à la fin des années 90, ce qui caractérise beaucoup son écriture aussi, c'est la réification de l'être humain. La dernière phrase du roman est très forte, c'est « un manteau se glisse dans un autre ». Vous voyez, donc l'être humain est réduit à son manteau, c'est une sorte de métonymie si on veut. Un autre procédé rhétorique très savant dont elle use de manière extrêmement discrète parce qu'on ne s'en aperçoit pas du tout. C'est quelque chose qui vous transperce comme une aiguille très fine dans le roman et qu'on comprend pas tout de suite, c'est la synecdoque. La synecdoque, c'est encore plus fort que la métonymie parce que c'est un procédé de fragmentation. Et cet univers totalitaire qu'elle a abhorré, elle le pulvérise par cette synecdoque, c'est-à-dire elle nous montre du dictateur seulement une boucle de ses cheveux qui effectivement était toujours très présente, ça faisait partie de son image, il devait trouver ça chic ou séduisant, et elle le réduit à cette chose-là, et les personnages sont souvent réduits, les femmes aussi, hein, à d'infimes détails, grotesques d'ailleurs, de leur apparence.
Ce qui est fascinant, c'est aussi son rapport au corps, et comment justement le corps dévoile des choses, que ce soit le corps de la fourrure du renard, ou même, je me rappelle de cette anecdote, où il y a justement un de ces hommes dont la femme lui lave les testicules dans une bassine et les testicules flottent. Et donc on lui dit « Ah, mais tu t'es vidé les couilles, tu m'as trompé puisqu'elles flottent !» Et j'ai trouvé ce rapport à la réalité absolument extraordinaire. Et surtout, l'aveu inconscient de l'homme qui regarde ses testicules flotter comme ça en se disant « Mais c'est vrai !» Et donc, évidemment, bien sûr, sa culpabilité ressort. Et là, je trouve qu'il y a un art du récit propre à, justement, à Herta Müller, de faire du corps aussi une façon de révéler quelque chose et une métonymie, un aspect peut-être plus symbolique de la réalité.
Oui, ce qui est très drôle dans ce passage, c'est que l'homme pris en flagrant délit à cause de sa mollesse localisée dit « Je te le jure, je te le jure !» Et la servante dit « Non, mais il ne sait même pas en quoi consiste son serment. Mais il jure toujours comme ça. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière le serment. »
Écoutons, si vous le voulez bien, un nouvel extrait du Renard était déjà le chasseur, toujours lu par la comédienne Élodie Huber.
Adina enfile sa jupe grise. Son pied glisse sur la peau de renard. La queue du renard se détache de la fourrure et reste là où les rayures de la fourrure sont claires et minces, sur le dos, arrachées sous son pied. Elle pose le renard, la fourrure vers le bas, observe l'intérieur. Une peau blanche et ridée comme une vieille patte. La fourrure du haut et la peau du bas sont plus chaudes que le sol et plus froides que ses mains. « Pourrie, moisie », pensa Dina. Elle pose la queue de renard contre la fourrure jusqu'à ce qu'elle ait l'air d'y avoir repoussé. Illy, dans son cadre, regarde avec des yeux qui ne lui appartiennent pas les vêtements qui ne lui appartiennent pas, les mains d'Adina. Il a un brin d'herbe dans la bouche. Pourrir, moisir, c'est mouiller, pensa Dina. Une fourrure sèche comme un brin d'herbe se racornit. Sur cette photo, le brin d'herbe est la seule chose qui appartienne à Illy. Le brin d'herbe vieillit son visage. Adina va dans la cuisine. La femme arrose les pétunias blancs à la fenêtre de sa cuisine. Il s'ouvre le matin quand la lumière arrive et se ferme le soir quand il se met à faire gris. Ils tournent chaque jour leurs entonnoirs en les ouvrant et en les fermant et se tournent vers le mois d'octobre. Ils ont un mécanisme réglé sur le sombre et le lumineux.
Nous venons d'entendre un second extrait du Renard était déjà le chasseur de Herta Müller, traduit par Claire de Oliveira, ici présente. Ce qui est aussi magnifique dans le Renard était déjà le chasseur, c'est cette description justement du quotidien roumain de ces années 80, de cette évolution vers la révolution. Et de comment ce groupe de dissidents, auteurs, compositeurs, avance avec toute la Roumanie vers cette révolution, Claire de Oliveira.
Oui, il avance quand il le peut encore, parce qu'un des membres du groupe d'action du Banat, Roland Kirsch, a été retrouvé pendu en mai 89. Donc, c'est quelques mois, malheureusement, après le moment où Ceausescu et sa femme vont passer devant un tribunal et être jugés de façon sommaire. De toute façon, il refusera de répondre concernant ses crimes et seront exécutés. Et donc, quelques mois auparavant, cet ami de Hertha Müller, Roland Kirsch, est retrouvé pendu. Et la Securitate dit qu'il s'est suicidé. Et Hertha Müller a toujours refusé de croire à cette thèse. Elle l'a dit très clairement parce qu'on a entendu du bruit chez lui ce jour-là, des cris. Et c'est le genre de choses qui fait que dans le roman, la métaphore de la pendaison joue un rôle important. Il y a le suicide d'un ferblantier par pendaison et un meurtre qui, justement, révèle cette histoire de Roland Kirsch, qui est tout sauf un suicide. C'est, la deuxième scène, c'est celle d'un vieux monsieur qui, brusquement, une sorte de vieux mendiant qui est là dans la rue et qui, d'un seul coup, se met à chanter l'hymne roumain « Des Stabtote Romane » et on le prend et ensuite, il est retrouvé la tête en bas, pendu à une corde.
Mais il y a aussi, Claire de Oliveira, cette scène du manège, où justement, qui est aussi une forme de pendaison, où à la fin du roman, on voit les gens suspendus à ce manège forain qui tourne avec des câbles en acier et des sièges. C'est une utilisation extrêmement belle, mais aussi extrêmement cruelle de la métaphore, justement, non, ce manège.
Oui, c'est très bien que vous fassiez ce rapprochement, c'est ça. Parce que, en fait, ce sont des secrétaires du parti, des notables, des personnes importantes qui ont demandé de faire un tour de manège en plein hiver. Et le monsieur qui s'occupait du manège, qui devait l'arrêter, puisque le moteur ne s'arrêtait pas tout seul, s'est dit, je vais laisser le moteur toute la nuit. Évidemment, le lendemain, ils étaient complètement gelés. Et c'est cela, et c'est en même temps, je pense, aussi une métaphore de ce temps suspendu qu'il y a sous la dictature, parce que les Roumains espèrent que cela aura une fin, et les minoritaires allemands de la même façon. Mais en même temps, ce temps de la dictature est d'une temporalité très spécifique. C'est un petit peu un hors-temps et un hors-cadre.
Un hors-temps, mais on a quand même l'impression que l'histoire s'accélère finalement dans la deuxième partie des années 80. Tout ça va très très vite et la chute est finalement beaucoup plus rapide que ce qu'on pourrait croire, très entendu.
Oui, le temps s'accélère, surtout donc à partir du début des années 80, lorsque les temps deviennent difficiles. Avec cette tentative de Ceausescu de payer la dette pour éviter une double colonisation. Il y a déjà la colonisation soviétique, d'une certaine façon, dont il a réussi plus ou moins à se débarrasser en se rapprochant de l'Occident à la fin des années 60 et durant les années 70. Et puis, il y a ce nouveau danger, c'est que finalement, Ceausescu n'est plus tellement populaire à l'Ouest, parce que après le retour de la guerre froide au moment de la crise des missiles de la fin des années 70, début des années 80, aussi l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques, eh bien, il y a eu, après l'arrivée de Jaruzelski au pouvoir, donc 81, il y a eu quand même un début de rapprochement entre l'Est et l'Ouest, et surtout avec l'arrivée de Gorbatchev, évidemment, qui a complètement démonétisé Ceausescu. Donc, si vous voulez, là, les grandes puissances, les États-Unis et l'Union soviétique, se rapprochaient directement, on n'avait plus besoin des petites passerelles comme Ceausescu, et donc, là, il a senti qu'il devait rentrer à la maison.
Oui, mais qu'est-ce qui se passe, justement, pour le peuple roumain à ce moment-là, au moment de cette fin des années 80 que nous dépeint Hertha Müller dans le Renard
Intelligent. Le peuple roumain, écoutez, il a faim, il a froid. Mais Ceausescu essaie à chaque fois de l'enthousiasmer à nouveau avec cette idée nationaliste d'indépendance qui fonctionne de moins en moins bien. Et là, on voit la popularité de Gorbatchev lorsqu'il se rend à Bucarest, si mes souvenirs sont bons, des 86-87. Et il est entouré. Les gens qui sont plus ou moins formés par Radio Free Europe savent qu'il s'est livré à des réformes libérales, etc. Et donc, il est populaire et Ceausescu essaie justement de créer une sorte de cordon sanitaire autour de lui parce que les gens, effectivement, la société, notamment urbaine, qui écoute Radio Free Europe et qui souffre, et effectivement, est de plus en plus hostile au régime. Il n'arrive pas vraiment à la réenthousiasmer. Et donc, à partir de 85-86, les choses vont de plus en plus mal pour lui. Et c'est le contexte, effectivement, du roman, puisqu'il est sorti en 92, donc il rend compte de la situation de ce groupe d'Allemands au Banat dans la deuxième moitié des années 80. Donc c'est effectivement le moment où Ceausescu perd en partie pied, en tout cas dans les grandes villes, dans les sociétés un peu plus évoluées, urbaines, il perd pied, sa popularité s'étiole. C'est moins le cas dans d'autres régions, dans des régions plus rurales, etc., où on croit encore à la propagande parce qu'il y a une culture politique assez faible et puis le régime est très, très répétitif, très insistant avec le culte de la personnalité. Mais effectivement, dans les villes, et notamment dans les villes de l'Ouest multinationales, puis qui ont une culture politique plus évoluée que dans la partie Est et dans la partie sud. Hein. Donc à l'ouest, c'est la Transylvanie, le Banat, donc des régions qui ont été dominées par les Habsbourg, multiculturelles, etc. Ou d'ailleurs le sentiment national roumain anti-hongrois, la lutte nationale au XIXe siècle contre la Hongrie a aussi éveillé cette réflexion politique, eh bien, Ceausescu perd pied dans cet espace précisément un peu hétérogène de la Transylvanie et du Banat.
À l'usine, quand j'étais la mauvaise blague qu'on lâche dans l'escalier, avec un mouchoir pour tout bureau, j'ai aussi trouvé dans le dictionnaire le beau mot d'échelonnement. Il signifie que les intérêts d'un prêt augmentent par palier en gravissant des échelons. Ces intérêts croissants sont pour l'un des débours et pour l'autre des rentrées. Dans l'écriture, ce sont les deux, à mesure que je me plonge dans le texte. Plus l'écrit me dévalise, plus il montre au vécu ce qu'il n'y avait pas dans ce qu'on vivait. Seuls les mots le découvrent, vu qu'ils ne le savaient pas auparavant. C'est lorsqu'ils surprennent le vécu qu'ils le reflètent le mieux. Ils deviennent si concluants que le vécu doit s'agripper à eux pour ne pas se désintégrer. À mon sens, les objets ne connaissent pas leur matière, et les gestes ignorent leurs sentiments, comme les mots ignorent la bouche qui les dit. Mais pour nous convaincre de notre propre existence, nous avons besoin d'objets, de gestes et de mots. Plus nous pouvons prendre de mots, plus nous sommes libres tout de même. Quand notre bouche est mise à l'index, nous tentons de nous affirmer par des gestes, voire des objets. Plus malaisés à interpréter, ils n'ont rien de suspect pendant un temps. Ils peuvent nous aider à convertir l'humiliation en une dignité qui, pendant un temps, n'a rien de suspect.
Nous venons d'entendre un extrait du discours de remise du prix Nobel de Herta Müller en 2009, lu par Hélène Losser et traduit par vous, Claire de Oliveira, dans lequel Herta Müller revient sur le pouvoir du langage.
Ce qu'elle a montré, c'est que la littérature ne peut pas changer ces semi-démocraties, comme elle dit, qui ne cessent, c'est son mot, d'enfiler et d'enlever leur accoutrement citoyen. Mais ce qu'elle peut faire, a posteriori, c'est inventer une réalité, j'emploie à dessein ce terme un peu contradictoire, inventer une réalité qui montre ce qui se passe en nous et autour de nous quand les valeurs dérapent, hein, quand les valeurs se perdent.
Et surtout, peut-être aussi, est-ce que c'est la création, finalement, la littérature qui permet à Herta Müller de se mouvoir dans la dictature? C'est-à-dire que ce qu'elle raconte, justement, de la scène de l'usine dans son discours pour le prix Nobel, c'est que c'est cette possibilité d'être créatrice, d'avancer en poésie, en littérature, en métaphore, qui permet de survivre à la terreur quotidienne. Et c'est ça finalement, le renard, il est à la fois le chasseur parce que il est aussi métaphorique. Il représente, il est à la fois ce langage que l'on dépiote, que l'on veut reconstruire, que l'on veut fabriquer. Il prend vie en fait, le renard, dans le roman.
Le renard comme l'escalier, ce lieu de l'écriture qui s'échelonne et qui est pour effectivement l'auteur ou l'autrice en pleine dictature, le lieu de la pensée, le moment où on est fondamentalement libre. C'est pour ça que j'adore ce passage où elle explique qu'elle a en quelque sorte l'esprit de l'escalier et que sortie de bureau où on le prime et où on lui demande de collaborer, où elle refuse et où elle est maltraitée et humiliée, elle trouve sa liberté dans un lieu de passage qui est en soi un peu avilissant, humiliant, mais qui pour elle est le lieu de l'élévation, où elle peut se sentir libre et écrire ses merveilleux romans.
Alors nous allons nous quitter en musique avec une chanson Gypsy Story du groupe légendaire des années 70 en Roumanie, Transylvania Phoenix. Est-ce que le rock ou la musique en général pouvait être un espace de liberté sous le régime communiste, très entendu?
Il faut évidemment lire et relire les romans d'Herta Müller traduits par Claire de Oliveira. Vous pouvez également regarder ce film Radio Métronome où vous voyez qu'il y a eu une culture rock roumaine dès le début des années 60, même une culture un peu hard rock, assez eurosynchrone à la fin des années 60, début des années 70. Ce n'était pas le seul pays de l'Est où cela se passait. Il y a aussi un rock underground en Union soviétique. Et là encore, je voudrais néanmoins finir sur une note toujours très ambigu vis-à-vis du régime Ceausescu, c'est que le bonhomme était malin. C'est qu'il avait mis lui-même en place, non pas tout à fait des concerts rock, mais pas loin, servant le régime discrètement, subrepticement, il y a un grand poète. Enfin, un bon poète, allez, on ne va pas dire grand parce qu'il était affilié au régime, qui s'appelle Adrian Păunescu. Et Adrian Păunescu est un bon poète lyrique. C'est un homme qui est originaire de l'actuelle République moldave, donc de Bessarabie, donc cette région contiguë à l'Union soviétique, dont provenait également Paul Goma. Donc ce sont deux Bessarabiens, deux Moldaves, de l'Est. L'un qui est devenu opposant au régime, Goma. L'autre qui est devenu son collaborateur ambigu, Adrian Păunescu. Et Ceaușescu l'avait laissé organiser des espèces de grandes messes folk avec de la très bonne musique, pop, folk, limite rock, qui permettait aux jeunes précisément... qui leur servait d'exutoire. Et ça leur permettait d'avoir une vie nocturne. Ils pouvaient rester des heures et des heures. Et il y avait une espèce de happening où Păunescu, qui était comme ça à une table, parce qu'il y avait des gens qui chantaient, puis lui, il était à la table, il discutait avec le public, un peu comme une rockstar poétique, où il faisait en fait de la poésie et de la musique patriotique. Et de temps en temps, il recevait des questions du public et il répondait. C'était une sorte de happening, vous voyez. Alors, on n'a jamais vraiment su si ces questions étaient préparées, si c'était des gens de la sécurité qui les lui donnaient, mais il y avait là un espace de liberté plus ou moins fantasmé, plus ou moins réel, lié à de la musique folk, parfois rock, très nationaliste, mais qui passait par le biais d'une esthétique rock, qui passait bien auprès des jeunes, et c'était une espèce de compensation au rock occidental, pacifiste, auquel ils n'avaient plus vraiment accès depuis le début des années 70. Donc il y a cette ambiguïté-là, et j'aimerais finir sur cet aspect habile du régime pour mobiliser la population, et vous avez jusqu'en 89 des gens qui soutiennent encore Ceaușescu, et ce sont eux qui, entre le 22 et le 25 décembre, s'opposent au nouveau régime et s'opposent de façon sanglante. Les gens qui tirent sur la population, ce ne sont pas les méchants sécuristes contre les gentils militaires, ce sont des gens à la fois sécuristes et militaires qui tirent sur d'autres sécuristes et militaires, surtout des militaires, qui se sont ralliés au nouveau régime et quelques-uns qui lui sont restés fidèles, car jusqu'au bout, Ceaușescu a été relativement populaire auprès d'une partie de la population.
Merci beaucoup Claire D'Oliveira et très ensemble de nous avoir accompagnés dans cette émission consacrée à Le Renard était déjà le chasseur de Herta Müller. Émission réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Valérie Lavalard à la technique aujourd'hui. Un grand merci à Aurélie Marsay pour la préparation. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour le dernier roman de cette série. Nous évoquerons les livres de Jacob d'Olga Tokarczuk. À demain.